Voilà. On a déjà entendu de belles choses. Et ce matin, on va aborder la personne de Dieu et on va considérer ensemble qui est Dieu. Et ce matin, donc, on va voir la transcendance de Dieu. Alors, c'est un mot voilà, qui peut, peut-être que vous ignorez, que vous ne connaissez pas, mais on va apprendre à le comprendre parce que cette transcendance de Dieu est vraiment importante et essentielle dans la personne de Dieu. Et juste pour donner une définition simple de la transcendance de Dieu, c'est la supériorité absolue et infinie de Dieu. La transcendance de Dieu, c'est la supériorité absolue et infinie de Dieu sur toute chose. Et donc on va ensemble... Voilà, ça c'est le verset dans Éphésiens 4. Éphésiens 4, Paul nous parle de l'unité des chrétiens et dans le cadre de l'unité des chrétiens, il va nous présenter la personne de Dieu. Et au verset 6, il va nous dire, « Il y a un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tout et parmi tous et en tous. » Et donc, en introduction, on va ensemble considérer que connaître Dieu est le bien suprême qu'un homme puisse connaître. L'importance de connaître Dieu. Il n'y a pas de recherche et de préoccupation plus importante et plus essentielle que celle de connaître Dieu. La Bible nous enseigne que l'intelligence est de chercher Dieu. Est intelligent celui qui cherche Dieu. Toutes les autres personnes sont des insensées et des stupides parce que sans connaître Dieu, c'est l'essentiel qu'on rate et on ne peut pas comprendre le monde qui nous entoure. Et Dieu veut que nous le cherchions. Dieu veut que nous le connaissions. C'est sa volonté qu'il a émise de toute éternité. C'est pourquoi il a envoyé Jésus, son Fils, pour se faire connaître à nous. Notre connaissance de Dieu détermine notre manière de vivre. Jésus a donné une parabole dans laquelle il a remis un haut fonctionnaire, une haute personne de haut rang, a remis à ses serviteurs une somme d'argent identique pour tous avant de partir en voyage. Et il espérait que chaque serviteur fasse fructifier cette somme d'argent. En rentrant de son voyage, l'un des serviteurs n'avait pas fait fructifier son argent. Il l'avait juste mis dans un linge et il l'avait mis de côté. Et le maître va le condamner, il va lui dire « méchant ». Serviteur, et tous ses biens lui seront enlevés. Pourquoi ? Parce que ce serviteur avait peur de son maître parce qu'il était sévère et méchant. Il avait une vision de son maître tellement fausse, tellement horrible, mais cette vision a déterminé ses actes et ses œuvres. Et donc nous aussi, il est important de prendre conscience que la connaissance de Dieu n'est pas quelque chose de facultatif, On peut éventuellement connaître mieux Dieu, mais elle est déterminante. Parce que c'est la connaissance de Dieu qui va déterminer notre manière de vivre et notre manière de nous comporter. Alors, on va parler de la transcendance de Dieu, mais on doit aussi aborder au même moment l'immanence de Dieu. Parce que ces deux notions vont ensemble et sont inséparables l'une de l'autre. La transcendance, c'est donc la grandeur prééminente, la grandeur insondable, infinie de Dieu, et l'immanence, c'est la proximité, c'est l'amour, c'est ce lien affectif que Dieu déploie pour sa création. Et les deux sont indissociables. Mais la transcendance, à mon sens, est le plus important. Même si les deux sont importants, mais la transcendance est fondamentale. Car imaginez simplement un Dieu qui ne soit pas transcendant, un Dieu qui ne soit pas tout-puissant, eh bien son amour n'aurait aucun impact sur nous. Et son amour n'aurait pas pu remporter la victoire sur la croix. Si Dieu n'avait pas été transcendant, si cette grandeur de Dieu n'avait pas été là, eh bien Jésus serait mort sur la croix et il serait resté dans le tombeau. Mais c'est la puissance, c'est la transcendance de Dieu qui a après arraché Jésus à l'enfer et l'a ressuscité. Alors voilà, on va faire un petit schéma. Vous avez donc Dieu. Alors, je n'ai pas pu faire plus grand, hein. C'est pas juste, mais j'ai fait le plus grand possible pour la diapo. Et donc, vous avez en dessous la création. Hein, vous voyez quand même la différence. Hein. Et encore, ce n'est pas bon. On n'aurait même pas dû voir création tellement Dieu est grand. Parce qu'on est tellement petit par rapport à lui, on n'aurait même pas pu voir la création, mais j'ai dû l'agrandir un peu. Et donc ça, c'est la transcendance de Dieu. Dieu est infiniment au-delà. Dieu est au-dessus de tout ce que nous pouvons concevoir. Il dépasse toute chose. Il a créé toute chose. Et sa création, il n'est pas dans la création. Il n'est pas sa création. Sa création est différente de lui. Elle est séparée de lui. Mais ça ne s'arrête pas là. Parce que là, si on s'arrêtait là, il manque l'immanence. Et s'il n'y a que la transcendance, ça serait terrible parce qu'on serait écrasé par ce Dieu et on serait vraiment toujours dans une crainte horrible de ce Dieu méchant hein, qui nous écrase, qui nous oppresse. Mais il y a aussi la transcendance, c'est-à-dire que Dieu entretient une relation avec cette création. Il n'est pas resté en haut dans sa grandeur très 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 loin. Parce que Dieu habite une étoile inaccessible, hein, et donc il n'est pas resté là-bas, mais c'est lui qui est venu, qui entretient une relation avec sa création. Et vous avez vu que la flèche jaune, je l'ai fait entrer dans la création, parce qu'il est dans la création. Et dans le verset qu'on a lu, on voit qu'il y a un seul Dieu et Père de tous, et on voit qui est au-dessus de tous, c'est la transcendance de Dieu. Et à côté, qui est parmi tous et qui est en tous. Et ça, c'est l'immanence de Dieu. Et donc, ce matin, on ne traitera que la transcendance, mais garder en mémoire aussi l'immanence. Et donc, on va voir maintenant la transcendance. On va essayer de définir un peu plus largement ce qu'est cette transcendance. Tout d'abord, une première définition, toute simple pour vous aider à bien comprendre. La transcendance de Dieu exprime sa supériorité absolue et infinie sur toute chose, ainsi que son entière indépendance par rapport à toute chose. Il est supérieur à tout de manière absolue et infinie, et en même temps, il est aussi indépendant. Il n'est pas lié à la création. Il se suffit entièrement à lui-même. Il n'a pas besoin de sa création. Il existait d'ailleurs avant la création. Il n'a absolument pas besoin d'elle. Le mot transcendance ne se trouve pas dans la Bible. Il ne faudra pas le chercher en rentrant. Il ne se trouve pas dans la Bible. Ce mot transcendance vient du latin transcendere, qui signifie monter au-dessus, ou encore élever par-dessus ou au-delà d'eux. Et donc, dans ce sens, quand on applique ce mot transcendance à Dieu, eh ben, il est d'actualité, il est vraiment révélé dans la Bible. Et c'est ce que Paul nous révèle dans ce verset de Éphésiens, où il dit que Dieu est au-dessus de tout, absolument de tout. Il est plus élevé que tout. Dans l'Ancien Testament déjà aussi, cette pensée était présente. La transcendance de Dieu est clairement manifestée. Et Dieu est présenté comme le Très-Haut. Vous avez sûrement dans vos Bibles déjà lu, dans les psaumes, ce nom de Dieu, le Très-Haut, qui indique donc sa place prééminente au-dessus de tout. Et ce Dieu Très-Haut est souverainement élevé, où il est à la plus haute place. Et donc on lit dans le psaume 47, entre autres, on lit « Vous tous, vous tous les peuples, battez des mains, poussez vers Dieu des cris de joie, car l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable. Il est un grand roi sur toute la terre. Dieu règne sur les nations. » Dieu siège sur son saint trône. Les princes des peuples s'unissent au Dieu de Jacob, au Dieu d'Abraham, car les puissants de la terre lui appartiennent. Il est souverainement élevé. Et souverainement ici évoque l'idée que c'est plus haut que tout. Il dépasse absolument tout. Ce n'est pas juste un peu plus élevé, mais il est infiniment élevé. Et donc la transcendance de Dieu est un attribut important, hyper important pour Dieu, parce qu'on voit bien que s'il n'était pas transcendant, son amour n'aurait pas pu nous sauver. S'il n'était pas transcendant, il ne pourrait pas nous secourir. Il ne pourrait pas venir à notre aide parce qu'il n'aurait pas la puissance nécessaire dans certains cas. Alors, transcendance, il y a un seul Dieu, ça aussi Paul le souligne, il n'y en a pas d'autre, hein. Il n'y en a qu'un seul, et donc qui est au-dessus de tout. Et pour revenir sur au-dessus, sur cette élévation, dans Ésaïe, au chapitre 55, verset 9, il est écrit « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Et là, on voit la transcendance des pensées de Dieu. Mais cette transcendance touche tous les domaines de Dieu. Sa grandeur, sa puissance, son amour, sa gloire, sa sagesse. Mais là, on a une information sur l'élévation. Et là, la parole nous dit que cette transcendance, c'est une élévation qui est autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant cette élévation est grande. Et quand il est question des cieux, c'est les cieux, c'est ce qu'il y a de plus loin. Est-ce que l'humain connaît cette distance ? Est-ce que vous arrivez à vous imaginer la distance qui nous sépare des cieux qui sont au-dessus, plus loin que les astres, plus loin que les étoiles ? Est-ce que quelqu'un de vous peut exprimer cette grandeur ? Qu'est-ce qu'on peut dire de cette grandeur ? Ça nous dépasse. Ça ne rentre pas dans notre case, là. Hein. Notre cerveau, là, il est out, déconnecté. Dieu atteint un sommet que nous ne pourrons jamais atteindre. Et notre cerveau est incapable de comprendre cette grandeur. C'est pour ça qu'il nous faut la révélation de Dieu. C'est pour ça que Dieu vient se révéler à nous. C'est lui qui se révèle à nous, et ce n'est pas nous qui le comprenons, mais c'est lui qui se révèle d'abord à nous, dans sa grâce. Dans Philippiens, en parlant de Jésus, après son humiliation et son abaissement, il est écrit « C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. » Pourquoi Jésus peut te secourir ? Pourquoi Jésus peut-il venir t'aider ? Parce qu'il est souverainement élevé. Et parce qu'il t'aime. Mais parce qu'il est souverainement élevé. S'il n'était pas transcendant, s'il n'était pas à ce niveau-là, il ne pourrait pas nous aider. Il serait impuissant. Et ici, souverainement élevé, traduit un mot grec. Alors voilà, je vais vous embêter un peu, mais je vais vous faire réfléchir pour vous montrer ce que dit la parole. Ce n'est pas moi qui l'invente. Un mot grec qui veut dire hyper élevé. Hyper élevé. Hein ? Il y a super, mais il y a hyper. Et ce mot grec, donc, nous manifeste que Dieu est hyper élevé. Il est souverainement élevé. Élevé au plus haut rang, au plus grand pouvoir, élevé à la suprême majesté. Et dans le psaume 95, nous lisons les versets 1 à 6. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des cantiques en son honneur, car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui. C'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Il est notre Créateur. La transcendance implique aussi que Dieu est avant toute chose. Et c'est dans le psaume 90, un psaume de Moïse, où Moïse nous dit « Avant que les montagnes soient nées, avant que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. D'éternité en éternité, tu es Dieu. » Et là encore, notre cerveau « out ». Parce que l'éternité, on n'y a pas accès. Nous sommes des créatures créées dans ce petit cercle que vous avez vu avant et on n'a pas accès à l'éternité. Mais Dieu, lui, habite l'éternité. Il n'a ni commencement, ni fin. Il est Dieu de toute éternité, et c'est pour ça qu'il peut être le Créateur. Parce qu'il est le seul qui était avant toute chose. Et donc, c'est lui seul qui a pu créer ce qui existe. C'est logique. Et ce qu'on a vu déjà aussi avant, c'est que Dieu est différent et distinct de toute chose. Il est séparé de sa création. Il n'est pas sa création. Et sa création ne pourra jamais être Dieu. Même sauvé, même racheté, on sera élevé, on pourra participer à la gloire de Dieu, mais nous ne serons jamais Dieu. Nous resterons toujours des créatures. Et l'indépendance aussi, Dieu est indépendant de tout, il a besoin de rien, besoin de personne, il se suffit à lui-même. Alors, les implications maintenant de la transcendance de Dieu. Et on va lire dans les Chroniques. On a déjà lu avant, je ne sais pas si vous vous rappelez le psaume qu'on a lu. Psaume 95, verset 6. « Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. » Et là, dans 2 Chroniques, chapitre 7, verset 1 à 3, Israël, le peuple de Dieu, vient de construire le temple. Ils ont construit le temple. Ils sont là devant ce temple et ils viennent rendre gloire à Dieu. Et à ce moment-là, la gloire de Dieu va venir remplir le temple et c'est le passage que nous allons lire maintenant. Lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Tous les enfants d'Israël virent descendre le feu et la gloire de l'Éternel sur la maison. Ils s'inclinèrent le visage contre terre, sur le pavé, adorèrent et louèrent l'Éternel en disant, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Et on voit là aussi la transcendance, l'immanence, pardon, l'amour qui est présent, puisque ce que dit le peuple à Dieu, il lui dit, car tu es bon, car ta miséricorde dure à toujours. La transcendance n'est donc pas quelque chose d'austère qui nous écrase. Mais quand on est dans la bonne relation avec Dieu, cette transcendance nous montre aussi son amour. Et là, ça change tout. L'adoration, ah, je vais encore lire un autre passage dans Apocalypse, hein, pour qu'on aille un peu dans toute la Bible quand même. Et donc dans Apocalypse, c'est l'apôtre Jean qui, lui, a une vision du ciel, de ce qui est devant nous. Il voit donc le ciel et tout ce qui se passe dans le ciel et ce qui se passera pour l'éternité dans les lieux célestes. Et je lis donc dans Apocalypse 5, versets 13-14, « Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis, qui disaient « À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force » au siècle des siècles. Et les quatre êtres vivants disaient « Amen » et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. » Ici, les vieillards, c'est une image du peuple de Dieu, c'est une image de tous les croyants qui viendront un jour devant lui. Mais on voit là que toute la création est concernée, absolument toutes les créatures, aucune ne sera exceptée, adoreront et se prosterneront devant la transcendance de Dieu. L'adoration de Dieu est inscrite dans la nature profonde de l'être humain. J'aimerais bien insister là-dessus. Si à un moment donné je vous perds, vous me faites signe, j'essaierai d'expliquer autrement. L'adoration n'est pas quelque chose que nous devons faire, n'est pas quelque chose que nous pouvons produire. L'adoration est quelque chose qui appartient à ce qu'on est intérieurement, qui est inscrit en nous. Ça va ? C'est notre ADN, c'est notre identité. Ce n'est pas quelque chose que j'ai à faire en plus, mais c'est quelque chose qui appartient à mon identité, à mon ADN. Et le fait de ne pas adorer Dieu a des conséquences dramatiques parce que cette attitude où je refuse la transcendance va me détruire mon identité et va détruire ce que je suis à la base. Et devant cette transcendance de Dieu, donc, il n'y a qu'une seule réponse logique, sensée, c'est l'adoration. Si Dieu est notre Créateur et que tout ce que nous avons lui vient de lui, alors il mérite immanquablement que nous nous prosternions devant lui, que nous lui rendions gloire et que nous lui rendions tous les honneurs qu'il mérite. Et tous les autres aspects qu'on va voir maintenant découlent de l'adoration. Pour moi, l'adoration englobe tout ce qu'on va partager, donc il y a l'adoration. Mais après, il y a aussi la dépendance. Pour moi, c'est dans l'adoration, mais c'est un aspect important. Si Dieu est transcendant, ça veut dire que je suis dépendant de lui. Entièrement, totalement, parce que absolument tout me vient de lui. Si Dieu est transcendant, ça implique que je dois me soumettre à lui et lui obéir de manière inconditionnelle. Que je comprenne pas ce qu'il me dit, mais puisqu'il est transcendant et au-dessus de tout, je lui dois la soumission et cette obéissance inconditionnelle. Puisque Dieu est transcendant, je ne peux être qu'humble et rester humble parce que je ne suis qu'une créature et il sera toujours le Créateur. Et ça, c'est important pour notre nature parce que nous avons tendance à vouloir renverser Dieu. On le verra encore après. Et la dernière chose qui est lié, qu'implique la transcendance de Dieu, c'est la crainte de Dieu. La crainte de Dieu devant sa grandeur gigantesque et impressionnante et terrifiante et insondable. Et cette crainte de Dieu n'est plus à l'ordre du jour chez nous. On en parlera encore après. Rien que la crainte de Dieu, les gens déjà, oh! Mais elle est logique. Il faut juste bien la comprendre. Cette crainte de Dieu, ce n'est pas le fait, comme le serviteur qui avait peur parce que son maître était sévère et méchant. Ce n'est pas lié à ça. La crainte de Dieu, c'est cette crainte devant la grandeur gigantesque de Dieu qui nous dépasse. Et quand on est dépassé, on a peur de ce qui est devant nous. Israël, quand Dieu s'est manifesté, il était tellement grand, quand il est descendu, la terre a tremblé, il y avait des coups de tonnerre, toute la terre, toute la montagne tremblait. Est-ce que vous n'auriez pas peur à ce niveau-là? Vous resteriez tranquille? Ouh, Dieu, mon amour! Certainement pas. C'est absolument pas approprié parce que Dieu est grand. Et cette grandeur, c'est parce qu'il est grand qu'on a cette crainte. Et cette crainte est essentielle aussi dans notre vie pour nous garder équilibrés. Troisième point qu'on va voir maintenant, je regarde l'heure. c'est le refus de la transcendance est à l'origine du péché. Le rejet, le refus de la transcendance est à l'origine du péché. Et on va lire dans Romains un passage important qui nous éclaire. Romains chapitre 1, versets 18 à 25, où je lis pour vous. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Je vous ai perdu ? Non, c'est bon. Tout y est encore. Hein ? Ah, c'est... ils s'en suivent. Ils me suivent, ça c'est bien ça. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et plus bas au verset 25, Paul termine en disant « Ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. » Nous avons ici la racine même du péché. Et ce que dit là Paul, ce qu'écrit là Paul, en fin de compte, c'est Adam et Ève qui l'ont vécu en premier. Et Paul nous apprend plusieurs choses. La transcendance de Dieu est manifeste. Elle est visible. Adam et Ève ont vu la grandeur de Dieu. Quand ils voyaient la création, quand ils regardaient tout ce que Dieu avait créé pour eux, cette grandeur, cette transcendance était manifeste. Et encore pour nous aujourd'hui, elle est manifeste dans toute la création. Et donc Paul amène ce constat radical, ils sont donc inexcusables. L'humain n'est absolument pas excusable parce qu'il voit, la transcendance de Dieu. Mais seulement, qu'est-ce qui s'est passé au départ ? Face à cette grande transcendance de Dieu, Adam et Ève n'ont pas adopté la bonne réponse. Dieu les a laissés libres, c'est la liberté. C'est le libre arbitre que Dieu a laissé à l'homme. Il ne voulait pas le contraindre. Mais dans ce libre arbitre, Adam et Ève ont pris la mauvaise option. Ils ont refusé, devant cette grandeur, ils ont refusé de rendre gloire à Dieu. Ils ont refusé de l'adorer, de le remercier. Pourquoi ? Parce qu'ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Ils voulaient s'adorer eux-mêmes. Et ils ont enlevé Dieu dans leurs pensées et se sont mis à la place de Dieu. Et cette attitude-là a des conséquences dramatiques parce que, comme je vous l'ai dit avant, l'adoration de Dieu est inscrite dans notre identité. Et quand nous n'accomplissons pas cette adoration, nous nous renions nous-mêmes, nous renions nous-mêmes ce que nous sommes et nous nous détruisons nous-mêmes, toute notre identité. Et on voit aujourd'hui, avec les conséquences du péché, toute la souffrance dans le monde, toutes ces choses qui arrivent qui ne sont pas normales, toutes les maladies du corps aussi, toutes ces maladies de l'âme, de l'esprit, tout ça, c'est à cause de ce choix de ne pas reconnaître la transcendance de Dieu et de ne pas adorer Dieu et de ne pas se soumettre à Dieu. L'intelligence donc corrompue de l'homme ne peut pas supporter la transcendance de Dieu. Et là, je voudrais maintenant vous rendre attentif à ce que nous vivons aujourd'hui. Quand vous regardez notre pays et quand vous regardez la mentalité qui est actuellement de mise dans notre pays, vous vous rendez compte que c'est effectivement le rejet de la transcendance de Dieu. Et ce rejet de la transcendance de Dieu qui est là, dans notre France, entraîne, après mai 68, je ne sais pas si certains connaissent mai 68, en tout cas c'est un événement qui est arrivé où il y a eu un changement de mentalité, où la jeunesse s'est levée pour refuser l'autorité, pour refuser les règles, pour être libre. Et tout ça, on retrouve derrière tout ça, même s'il y a eu peut-être de bonnes choses, humainement parlant. Mais derrière tout ça, on retrouve le refus de la transcendance de Dieu. Se libérer de cette transcendance pour que l'homme soit lui-même au centre. Et on voit aujourd'hui autour de nous ce refus de toute autorité transcendante. On refuse l'autorité. On a réduit l'autorité. On le met à côté de nous et on leur parle comme si c'était au même niveau que nous. Manque de respect. Le refus de toute vérité transcendante, de toute vérité qui est au-dessus de nous. Et aujourd'hui, c'est l'individu, c'est la personne ou la créature qui est au centre de tout. C'est ce que lui ressent. C'est ce que lui pense qui est transcendant, qui est la vérité. Un point, c'est tout. Et c'est le monde dans lequel nous vivons. Et mes bien-aimés, je pense que ce matin, je peux vous donner mon opinion, ça n'engage que moi, mais cette mentalité du monde pénètre nos églises. Nos églises, je n'ai pas dit uniquement la nôtre, hein, j'ai dit nos églises. Elles pénètrent nos églises de manière imperceptible parce que nous sommes imprégnés par cette mentalité. Et cette mentalité qui entre modifie nos comportements aussi à l'égard de Dieu. Nous sommes indéniablement influencés par la culture dans laquelle nous sommes et nous avons donc un besoin impératif, nous, enfants de Dieu, de laisser Dieu nous éclairer et de laisser Dieu assainir notre conscience qui est polluée, marquée par ce monde, faute de quoi nous aurons une mauvaise image de Dieu qui va automatiquement engendrer des comportements qui n'honoreront pas son nom et qui ne seront pas à la hauteur de ce qu'il est et de ce qu'il mérite. C'est important de comprendre cela, important, et de savoir qu'on a besoin humblement de venir devant ce Dieu transcendant qui nous a aimés pour qu'il change notre mentalité, qu'il nous enlève ce que le monde a rajouté, mais qu'on retrouve la mentalité de Dieu qui est au-dessus de nous. Le dernier point, quatrième point, c'est que la transcendance sous la nouvelle alliance aujourd'hui. La transcendance sous la nouvelle alliance. Et donc on lit dans Éphésiens 4, c'est un peu plus loin que le passage que j'avais au départ. Nous lisons, c'est pourquoi il est dit, donc en parlant de Jésus, « Étant monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie « il est monté » sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre ?» Jésus est descendu dans le séjour des morts. Il est mort à notre place. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. La grâce de Dieu ne diminue en rien sa transcendance. La grâce de Dieu ne diminue en rien sa transcendance. Il est impossible que Dieu diminue sa transcendance, autrement il ne serait plus Dieu. Autrement il ne serait plus Dieu. La grâce de Dieu, ce n'est pas Dieu qui s'abaisse à notre médiocrité, heureusement, mais c'est Dieu qui nous élève à sa gloire et à sa sainteté, malgré notre faiblesse et malgré nos limites. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Éphésiens 2, verset 6. Jésus est monté au-dessus de tous les cieux. Jésus s'est abaissé volontairement pour un temps, mais après son œuvre, il est remonté et il a emmené les captifs que nous étions avec lui pour nous amener et il est allé au-dessus de tous les cieux, à la place la plus haute qui soit. Et ce qu'il y a d'extraordinaire avec cette nouvelle alliance, et ce qui change tout, c'est que le Dieu transcendant est devenu notre Père. Le Dieu transcendant est devenu notre Père. Il n'a pas enlevé sa transcendance, mais il nous a réconciliés avec lui. Parce qu'à cause de la chute, à cause du péché, l'homme a été séparé de Dieu. Et en étant séparé de Dieu, on l'a lu au début de Romains 1, verset 18, la colère de Dieu est tombée sur nous, et donc Dieu est devenu un juge. Et donc l'humain aujourd'hui ne supporte plus la transcendance de Dieu parce qu'elle lui rappelle la colère et le jugement de Dieu. Mais quand nous venons à Jésus-Christ, que nous sommes lavés de nos péchés parce qu'il est mort à notre place, Jésus efface nos péchés, nous réconcilie avec Dieu et Dieu n'est plus notre juge. Mais Dieu devient notre Père. Et donc la crainte de la condamnation, la crainte de la sanction terrible est enlevée. Il n'y a plus de condamnation pour nous parce que Dieu est notre Père aujourd'hui. Et il reste transcendant. Il reste grand. Et cette grandeur de Dieu nous rassure, parce que si notre Dieu était un petit Dieu, notre paix, elle ne serait pas grande. Mais c'est juste merveilleux. Et par cette œuvre de Christ, Christ veut nous ramener à quoi ? On le voit dans le verset que j'ai lu avant, au début, hein. Il y a un seul Dieu et Père. Ça, c'est l'œuvre de la croix. Le Dieu transcendant devient notre Père. Et la conclusion, c'est tout simplement « Rendez à l'Éternel la gloire due à son nom ». C'est ça à quoi Jésus nous appelle. C'est ça notre objectif aujourd'hui, que nous sommes réconciliés avec lui, parce que Dieu nous aime, pas parce que nous avons peur de la sanction, pas parce qu'il faut obéir à des lois ou à des règles, mais parce que nous aimons Dieu d'un amour parfait que Jésus déverse dans nos cœurs. Comme Jésus a aimé Dieu, nous aimons Dieu. Et donc Paul nous encourage au début de Éphésiens, au début du chapitre 4, il nous dit « Je vous encourage donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. Conduisez-vous d'une manière digne qui honore Dieu. » Et pour finir, on va lire le psaume 96 pour nous laisser pénétrer par l'Esprit de Dieu qui nous appelle. Aujourd'hui, étant réconcilié avec lui, à lui apporter cet honneur et cette adoration. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel la gloire due à son nom. Apportez-lui des offrandes et entrez dans ses parvis. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tremblez devant lui, habitants de toute la terre. Dites parmi les nations, l'Éternel règne. Aussi le monde est ferme, il n'est pas ébranlé. L'Éternel juge les peuples avec droiture. Que le ciel se réjouisse, que la terre soit dans l'allégresse, que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient, que la campagne et tout ce qui s'y trouve soient en fête, que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient. Oui, il vient pour juger la terre, il jugera le monde avec justice et les peuples suivant sa fidélité et sa vérité. Et on voit ici, là, à la fois, il y a la présence de la crainte de Dieu et à la fois la joie qui est dans nos cœurs parce que nous savons que ce Dieu transcendant est notre Père et qu'il nous est favorable. Et c'est vraiment ce qui nous apaise. C'est vraiment ce qui apaise nos cœurs devant toutes les tempêtes qui peuvent arriver. De savoir que le Dieu qui nous aime est transcendant et qu'il domine absolument sur toute chose. Amen. Seigneur, nous voulons te rendre gloire et te remercier pour tout ce que tu nous révèles dans ta parole. Merci pour ta grâce, merci pour ta bonté. Sois béni, Seigneur Dieu. Merci pour ta grandeur insondable que tu veux nous révéler ce matin ou nous mettre en lumière ce matin, Seigneur. Seigneur, rends-nous réceptifs, car nous avons besoin d'être transformés intérieurement. Nous avons besoin de nous défaire de la pensée du monde, d'enlever la mentalité du monde, Seigneur, qui est contre toi, qui est contre ta transcendance. Seigneur, renouvelle-nous. Amène-nous à être transformés à l'intérieur pour comprendre qui tu es, pour comprendre ta grandeur insondable et infinie, pour que nous puissions venir devant toi avec ce respect profond, cet amour, cette joie d'être avec toi parce que tu es notre Père, parce que tu es venu jusqu'à nous. Et que dans ta transcendance, dans ta toute-puissance, tu nous as rachetés, tu nous as réconciliés avec toi. Seigneur, oui, que nos vies te glorifient, que nos vies soient à ta gloire, que tout ce que nous fassions, soit que nous mangions, soit que nous buvions, que tout ce que nous fassions soit pour ta gloire, Seigneur, parce que tu en es digne, Seigneur. À toi toute la gloire. À toi toute la louange en Jésus-Christ. Amen.